Parce que vu du ciel, notre planète est bleue, des chercheurs tentent de comprendre les mécanismes qui régissent la vie sous-marine, fragile et pourtant vitale pour ceux qui peuplent la Terre. Le centre scientifique de Monaco s'est peu à peu spécialisé dans les écosystèmes coralliens, sous l'impulsion à la fin des années 80 du chercheur Denis Allemand, qui menait à l'époque une étude sur le corail rouge de Méditerranée. Il est depuis devenu le directeur scientifique du centre.
Le centre ici a été constitué il y a plus de maintenant de 50 ans par le prince Rainier. Depuis plus de 20 ans, on travaille sur les écosystèmes coralliens dans le but à la fois d'étudier leur biologie de façon fondamentale, mais aussi d'étudier les impacts des changements climatiques sur cet écosystème. Donc on a développé des recherches qui vont du gène à l'écosystème, deux équipes complémentaires, donc une équipe qui fait plutôt la partie génomique, génétique, cellulaire, et une autre équipe qui va jusqu'au niveau de l'écosystème avec des expériences de terrain. On cherche d'abord à étudier le fonctionnement de l'organisme corail qui est responsable de la formation de ces récifs, qui est en mer à l'heure actuelle l'écosystème le plus important d'un point de vue productivité. Les récifs coralliens sont tout petits en surface dans les océans. Ils recouvrent moins de 0,1% de la totalité des océans, donc c'est négligeable. Par contre, ils hébergent plus de 30% de tout ce que l'on connaît actuellement dans les mers. Donc c'est réellement un écosystème majeur. C'est plus important en termes marins que les forêts tropicales en termes terrestres. C'est vraiment très important. Pour ce faire, on a ici développé trois aspects qui étaient importants de réunir pour faire cette recherche. La possibilité d'avoir des coraux de culture en laboratoire. Vous ne pouvez pas imaginer aller sans arrêt sur le terrain, ni collecter sans arrêt des animaux que l'on protège, que l'on cherche à protéger. Donc on a développé des méthodes de culture ici, on est dans des conditions contrôlées. On est à l'heure actuelle encore le seul laboratoire au monde à réellement avoir des coraux de culture dans des conditions contrôlées. Même les grands laboratoires comme l'Institut australien des sciences marines, donc en Australie, n'ont pas cette capacité. Donc ça, c'était la première chose, avoir des cultures. Deuxième chose, avoir des chercheurs. Et donc on a ici réuni des chercheurs avec des capacités complémentaires d'expertise qui vont de la physiologie, de la microscopie, de l'écophysiologie, de la paléoclimatologie. Et puis, troisième chose qu'il fallait réunir pour que la mayonnaise prenne, c'est une capacité d'analyse importante. Et donc là, on a la chance, grâce au gouvernement princier, d'avoir un équipement de très bon niveau, de microscopie, de biochimie, ce qui nous permet de faire un travail qui se place à l'heure actuelle parmi les meilleurs au monde. Donc ce qu'on cherche, nous, c'est à comprendre les mécanismes de base pour après essayer de les gérer au niveau environnemental. C'est pour ça qu'il y a toujours ce contexte entre une équipe de terrain, une équipe plutôt écophysiologie, écologie et une équipe cellulaire.
Le réchauffement climatique, aujourd'hui avéré, a bien des incidences sur la planète. Bien sûr, et vous le savez, il accroît l'effet de serre et bouleverse ainsi la météo, mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il est à l'origine de la disparition des coraux. En effet, le CO2 présent dans l'atmosphère se dissout dans l'eau de mer. On a longtemps cru que ce phénomène naturel aiderait à atténuer l'effet de serre, il n'en est rien, car l'augmentation du CO2 dans l'air va de pair avec l'augmentation du CO2 absorbé par l'eau et provoque ce que l'on nomme l'acidification des océans.
Le réchauffement climatique, c'est le premier effet, l'effet le plus visible sur les récifs coralliens, quelque chose qui est visible maintenant depuis plus de 20 ans, et c'est aussi un petit peu la cause de la création ici du centre scientifique de Monaco, puisque c'est ce que l'on appelle le blanchissement, c'est-à-dire que les coraux perdent leur couleur, perdent en fait la capacité qu'ils ont de contracter une interaction avec des algues, avec des algues qu'on appelle une symbiose, donc des algues qui vivent à l'intérieur des cellules du corail et qui nourrissent le corail.
Stéphanie Reynaud de l'équipe écophysiologie, autrement dit de l'équipe de terrain, était en avril 2011 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, invitée par un organisme australien appelé LAMES, afin de travailler sur l'impact des sources naturelles de CO2 sur les coraux.
Chercher ces sources de CO2 naturelles, donc qui sont des gazages à partir de l'activité volcanique. On était sûr qu'il n'y avait que du CO2 dans ces bulles de gaz et pas de contamination avec d'autres gaz comme le méthane, par exemple, parce qu'une première mission avait déjà été faite l'année d'avant, où je n'avais pas participé. Et après, on voulait voir comment les coraux supportaient en fait ces variations de pH. En fait, ça nous fait un petit peu comme un laboratoire naturel. Là où il y a des sources de CO2, on a des valeurs très très basses de pH. Et plus on s'éloigne, plus on a des valeurs, on va dire, normales de pH jusqu'à atteindre la valeur normale de l'eau de mer qui est de 8,2.
Donc ce sont des zones où, naturellement, depuis très longtemps, le CO2 est abondant. J'imagine que vous avez étudié comment est-ce que le corail résistait naturellement à cette acidification-là pour pouvoir peut-être en tirer des conclusions et protéger les autres coraux.
Oui, c'était ça. Et on a vu qu'il y avait des espèces qui résistaient très très bien, mais par contre, il y a peu d'espèces. Un récif classique, on va avoir une grande diversité de coraux. Là, on se retrouvait avec 3 ou 4 espèces types qui étaient très résistantes. Et donc, on perd beaucoup de diversité. Donc, par exemple, par rapport au tourisme, c'est beaucoup moins beau de voir ce style de récif.
C'est beaucoup moins beau, mais est-ce que la vie autour de ce corail est la même ?
Ah non, pas du tout. Parce qu'il y a quasiment le corail, bon, on n'a pas beaucoup vu de poissons, on n'a pas vu d'oursins, on a certaines algues par contre qui résistaient bien, mais ça n'avait rien à voir avec des récifs, comme on dit, classiques.
Ce que cette chercheuse est allée vérifier sur le terrain, d'autres s'affairent chaque jour à le recréer en laboratoire. Sylvie Tambuté.
Moi, je suis directrice de recherche de l'équipe de physiologie biochimie. Et dans le cadre de l'acidification, donc, nous cherchons à voir comment ce paramètre impacte la calcification chez le corail. Et d'un point de vue expérimental, donc, nous avons des coraux en culture dans des conditions bien contrôlées. Et on a des bacs expérimentaux dans lesquels on fait varier cette PCO2 pour varier donc aussi le pH. Et on va regarder au niveau du corail quels sont les paramètres qui vont varier. Donc on a un tas de paramètres physiologiques liés à la calcification et on va voir comment ils sont affectés.
Comment sont-ils affectés ?
Alors, ils sont affectés à différents niveaux. Donc, il y a des niveaux visuels et il y a aussi des différences entre espèces. C'est-à-dire qu'il y a des coraux qui vont être davantage affectés et visuellement, on va voir, par exemple, qu'ils perdent leur squelette. Et il y en a d'autres qui, à l'œil nu, ne vont pas avoir de signes évidents. Mais dès que l'on va passer par des techniques de microscopie, par exemple, on va voir qu'au niveau du squelette, certains cristaux, par exemple, vont être différents. La forme peut être différente. La taille peut être différente. Donc, on peut voir à différentes échelles, en fait. Des molécules qui interviennent dans la constitution du squelette, parce qu'il faut savoir que le squelette, c'est du carbonate de calcium, mais c'est aussi des molécules organiques. Donc là aussi, nous, dans cette équipe, en fait, à l'origine, on essaye de comprendre la mécanistique de formation de ce squelette. Avec l'acidification, on peut mieux comprendre le phénomène, tout en ayant des informations sur l'effet d'un point de vue environnemental, sachant qu'on est dans des conditions contrôlées et que dans l'environnement, il y a d'autres paramètres qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne peut pas obligatoirement reconstituer en laboratoire, si la nutrition, la lumière, qui peuvent varier, qui ne sont pas obligatoirement ce que nous, on a ici, on est en conditions vraiment contrôlées.
Alex Venn, chercheur en collaboration avec le laboratoire européen BioSensi, biologie des écosystèmes sensibles au changement climatique, associé au CNRS.
Je travaille sur le pH, comment les coraux régulent, contrôlent le pH dans le tissu. Et le lien avec le contrôle du pH, le processus de biomineralization ou calcification, comment les coraux font le squelette. On veut savoir s'il y a un lien entre le changement du pH dans l'environnement et un changement du pH dans les cellules qui font le squelette et entre le squelette et le tissu. Où le squelette s'est formé. Et donc, c'est une approche très mécanistique. On regarde les détails.
Alors justement, est-ce que ce pH environnemental impacte le pH du corail ? Réponse.
Oui. On pense qu'il y a un effet. Le pH dans l'environnement change, ça change le pH dans l'intérieur du corail.
Julien Laurent, doctorant depuis plus d'une année au centre scientifique, s'intéresse particulièrement aux mécanismes biocellulaires.
Et j'étudie les interactions qu'il y a entre des algues qui sont capables de vivre à l'intérieur du corail et qui permettent justement aux coraux de se construire rapidement comme ils le font et de construire ces récifs coralliens. Et moi, mon travail consiste à étudier quels sont les mécanismes de régulation du pH intracellulaire, c'est-à-dire des cellules de corail qui sont capables d'abriter ces petites algues intracellulaires à l'intérieur qui leur permettent de se développer correctement. Et donc j'essaie de comprendre comment évolue ce pH en fonction des paramètres environnementaux, comme par exemple l'évolution de l'intensité lumineuse à l'extérieur du corail, ou potentiellement et dans le futur, essayer de comprendre quelle sera l'évolution de ce pH et de cette interaction en fonction de l'acidification des océans et d'un PCO2 de l'eau de mer qui augmentera et qui contribuera à une diminution du pH de l'eau de mer.
À l'heure actuelle, 20% des coraux à la surface du globe sont déjà détruits ou fortement impactés par le phénomène de blanchissement dû au réchauffement climatique. Et certains effets combinés accélèrent encore plus ce processus. On retrouve Stéphanie Reynaud.
Alors, une des autres grosses menaces sur les récifs coralliens, on pourrait penser, donc il y a d'une part une augmentation de la température, d'autre part une diminution du pH, mais quand il y a un effet combiné des deux, c'est encore plus grave. On avait fait des expériences en laboratoire il y a quelques années, on avait montré que le corail était affecté par une augmentation à la fois de la température et une diminution du pH, comme s'il pouvait résister à un stress, mais à deux stress, ils n'arrivent plus à résister.
À ceci rajouter le tourisme de masse sur la grande barrière de corail, la pêche à la dynamite, encore pratiquée par certains pêcheurs peu scrupuleux, les polluants organiques persistants provenant de l'agriculture, et vous obtiendrez un scénario catastrophe digne des plus grandes productions hollywoodiennes. Mais puisque sur Radio Éthique, nous avons décidé d'être résolument optimistes, voici quelques conseils de bon sens émanant de ces scientifiques afin de ne pas contribuer à cette disparition presque programmée.
On dit toujours, en fait, de diminuer tout ce qui est émission de CO2 dans l'atmosphère, parce que le CO2 est dans l'atmosphère et après il diffuse très bien dans l'eau. Donc c'est ce qu'on entend dans les médias, éviter de prendre sa voiture pour un oui, pour un non, faire attention au chauffage.
Non, on va s'orienter vers un tourisme responsable ou d'essayer tout simplement, pendant des voyages où on serait confronté à des récifs coralliens, de faire attention, de les observer, de ne pas les casser. Et il y a quelque chose aussi que les gens ne savent pas forcément, il y a certains composés des crèmes solaires aussi qui peuvent agresser les récifs coralliens. Donc il faut savoir qu'il y a certaines crèmes solaires qui sont justement utilisées par les baigneurs dans les endroits où il y a des récifs coralliens qui peuvent contribuer à menacer ces écosystèmes-là. Et donc en ce moment, des travaux sont développés pour essayer de justement créer des crèmes solaires ou essayer vraiment de déterminer ces composés qui pourraient agresser ces coraux.
Éviter aussi de ramener des objets de collection de pays tropicaux, ou même d'ailleurs de pays méditerranéens, comme des squelettes de coraux. Un squelette de corail, c'est une vie au départ qui a été prélevée dans la mer. De même, des coquillages nombreux qui sont vendus souvent sur les marchés touristiques dans beaucoup de régions.
Le centre scientifique permet aujourd'hui à Monaco de se placer au 8e rang des pays en nombre de publications dans son domaine de recherche. De quoi faire de son site internet le www.centrescientifique.mc une véritable mine d'informations.